5, 4, 3, 2, 1, feu!
Pour cette fin du Panthéon décousu, je vous emmène pour deux visites dans l'antre du diable. Dans les tentatives humaines de contrôler la destruction, au temps où la France s'est dotée de l'arme atomique. Bonjour et bienvenue dans cette 29e visite de la saison 8 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, il ne sera donc pas question de centrales et d'énergie nucléaire pour les ménages, non, mais d'essais réitérés de la bombe sur 36 ans, où les appelés du contingent durent endosser la peur du cobaye et l'anonymité des cancers multiples. Sans parler des gradés ni des civils présents sur site. Bref, une belle histoire de la Grande Muette et du premier cercle du pouvoir. Direction Reagan, dans le Sahara algérien, fin des années 50.
Des appelés du contingent arrivent en renfort. Michel Verger était l'un d'entre eux. Affecté au bureau de poste, il fut bien des années plus tard l'un des présidents de l'Association des vétérans des essais nucléaires militaires français.
C'était pendant la guerre d'Algérie. J'ai été convoqué au Mans et j'ai menti à ma grand-mère. J'ai dit, tu vois, je ne vais pas en Algérie puisque je suis convoqué au Mans. En fait, trois jours après, j'étais à Alger. Et j'ai fait 27 mois en Algérie. Comme moi, j'étais postier, je suis rentré à la poste militaire. Et puis, j'apprends par hasard qu'il y avait un petit poste qui se libérait dans le désert, où on était tranquille. En fait, comme ça, je connais très mieux le désert. Et puis, je m'éloigne du Nord, où je n'étais pas tellement favorable à ce qui se passait en Algérie. Hein. Et puis, je suis arrivé à Reagan, dans un petit poste militaire, où là, on diffusait tout le courrier pour tous les militaires qui étaient sur la base. Et c'est là que j'ai appris que le petit coin tranquille, c'était une base atomique. Je ne le savais pas. Vu mes opinions, j'aurais plutôt pris la direction opposée.
Tous les sons non musicaux sont issus de deux documentaires assez passionnants sur le sujet, 35 ans d'essais secrets en Algérie, publié en mars dernier sur YouTube, et La bombe atomique française, documentaire de Jean-Pierre Desbordes et Catherine Bonnet, d'Archipel Productions, diffusé en 2012.
13 février 1960, en plein désert du Sahara. Il est 7h04 du matin. La première bombe nucléaire française vient d'exploser. La déflagration, massive, libère une énergie équivalente à 70 000 tonnes de TNT, soit plus de 4 fois la bombe d'Hiroshima, larguée 15 ans plus tôt. Le souffle balaie tout dans un rayon de plusieurs kilomètres, et le champignon atomique s'élève à plus de 10 km dans l'atmosphère. La France vient d'entrer dans l'ère nucléaire. Le général de Gaulle, président de la République, ne cache pas sa satisfaction. Dans un télégramme adressé à son ministre des Armées, il écrit
« Hourra pour la France ! Depuis ce matin, elle est plus forte et plus fière. Du fond du cœur, merci à vous et à ceux qui ont pour elle remporté ce magnifique succès. »
Mais à quel prix humain ? Ah, c'est haut gradé !
Pendant 36 ans, la France va expérimenter ses armes d'un nouveau genre. Des essais nimbés de secrets et ponctués de graves accidents. 36 années durant lesquelles les opérations se dérouleront sous l'égide du secret défense.
De la désinformation, de la propagande et même du mensonge. En 1960, le compositeur polonais Krzysztof Penderecki rend hommage aux premières victimes du nucléaire militaire avec son traîne pour les victimes d'Hiroshima. Quinze ans après Little Bob et ses 120 000 morts environ, quasi instantanés, la France réalise donc son premier essai en plein air. À peine 2 mois après Hiroshima et 4 mois après l'armistice de 1945, la politique nucléaire de la France est donc déjà en route.
En France, le gouvernement provisoire mené par le général de Gaulle suit avec intérêt l'avènement de l'énergie nucléaire. Pour encadrer le développement de cette énergie dans les secteurs industriels et militaires, il fonde, en octobre 1945, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Quelques années plus tard, le contexte international se tend. La guerre froide a plongé le monde dans l'incertitude et la peur. et l'arme atomique devient un enjeu de domination et de dissuasion. À partir de 1954, la France réunit ses meilleurs scientifiques et le CEA scelle un pacte avec l'armée. La conception de la bombe est lancée dans le plus grand secret. Et à mesure que le programme avance, une question se pose. Une question capitale. Où tester un tel engin ? Dans un rapport de 1957, les autorités évoquent plusieurs possibilités. Les îles Kerguelen dans les terres australes, la Réunion dans l'océan Indien ou encore la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. Mais c'est finalement le Sahara qui est choisi.
Nonobstant l'impact irréparable sur l'ensemble du vivant et des trois possessions françaises, dont deux largement peuplées, c'est donc un département français d'alors, en Algérie, qui est choisi. Une bourgade de 5000 âmes.
Ainsi, à partir de 1957, un immense laboratoire émerge des sables. Reggane, autrefois petite ville paisible, devient une véritable fourmilière. Au milieu des plateaux arides fleurissent deux sites. Un complexe capable de loger 6000 personnes et une base militaire, 45 km de là, dotée de bunkers sécurisés et d'un champ de tir. Une tour de 100 mètres de haut est érigée afin d'accueillir la future bombe. Et autour de ce point zéro, une zone de sécurité est établie.
Bernard Ista est affecté dans une cahute située à 3500 mètres du point zéro avec quelques collègues. Autour du pas de tir, à distance régulière, des engins des trois armes et des mannequins. Objectif, tester la résistance au feu nucléaire de ses matériels et des tenues de combat. Bernard Ista est aux premières loges au moment de l'explosion de Gerboise Bleue.
À 6h25, forte émotion générale. Annonce de l'opération Gerboise Bleue pour 7h04. Le général Ayret dirige l'opération.
Ce n'est plus qu'une question de minutes.
L'assemblage de l'engin se termine à H-4 minutes. La mise à feu est lancée. Plus aucune intervention n'est possible. À H-5, je mets mes lunettes noires de protection, j'ai la main gauche sur la poignée de la porte, mon Leica sur le ventre.
Puis la seconde.
On nous a fait sortir du bureau de poste militaire, allongé sur le sable, à l'inverse de l'explosion, les yeux fermés, la tête dans le bras, et 7h04.
5, 4, 3, 2, 1, feu!
Dans la cahute, j'aperçois le flash dans la rainure de la porte. Je me précipite au dehors, enlève mes lunettes. Une lueur jaune-orangée inonde le désert. Mes yeux se braquent instantanément sur la boule de feu et je me précipite sur la caméra, réglée 64 images secondes.
Moi j'ai pensé, ils ont foiré leur coup. Je ne pensais pas que là, il y avait l'éclair et après le bruit et que ça mettait un certain temps avant d'arriver. Comme c'est le désert, le bruit est parti comme des chevaux au galop, des millions de chevaux au galop, dans le désert, comme une vague. Et le bruit s'est perdu dans le désert parce qu'il n'y a rien qui retient en fait.
Je filme et photographie à tour de bras. Je me retourne et j'aperçois tout le monde à plat ventre sur le sable. Le chef hurle mon nom. Il faut partir d'ici. Je traîne. Le chauffeur panique. On fonce. Sur la route, nous croisons des hommes en blanc et des hommes de troupe. Sont-ils envoyés sur le point zéro ? Le chauffeur est paniqué. Un nuage noir se soulève au pied du champignon. Nous rentrons à la base sans encombre.
Le nuage radioactif, entraîné par les vents de la haute atmosphère, se déplace vers le sud-est, au-dessus des régions désertiques.
Le service cinéma des armées filme le développement du nuage atomique.
À 300 km au sud-est, la zone de radioactivité est déjà complètement inoffensive.
Officiellement, Gerboise Bleue ne fait pas de retombées radioactives.
J'ai un document de la marine. C'est incroyable. Si quelqu'un écoute et qu'il est scientifique ou un petit peu formé, il ne va pas le croire. Qui dit tout simplement que 90 secondes après l'explosion, les radiations retardées ne sont pas dangereuses. Je répète, 90 secondes après l'explosion, un document de 65 de la marine, les radiations retardées ne sont pas dangereuses. Or, c'est vraiment de la désinformation pour ne rassurer les gens.
Juste après l'explosion, les avions vautours de l'escadron noir sont envoyés à l'intérieur du nuage pour effectuer des prélèvements de particules radioactives.
Des échantillons des produits de l'explosion sont recueillis dans le nuage même. Ce vautour qui vient de le traverser rapporte des poussières radioactives. Elles sont récupérées avec les précautions exigées par le danger terrible qu'entraînerait leur contact.
Au sol, une immense tache noire de sable vitrifié remplace désormais la tour. Des soldats vêtus de combinaisons étanches quadrillent la zone pour effectuer les premiers relevés de radioactivité. Certains se rendent même au point zéro, l'épicentre de l'explosion.
Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et y'a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, 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 réveillez-moi.
1959, Claude Nougaro, Il y a une ville, on ne peut plus d'actualité.
La décontamination est une opération très simple. Il suffit d'un lavage par jet de produits détersifs et d'un abondant rinçage. Les eaux chargées de particules radioactives s'écoulent vers une citerne. Le vautour, sa toilette achevée, est prêt pour une nouvelle mission.
Officiellement, rien à signaler. Mais en y regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit que la propagande ne montre pas tout. Pour se protéger des radiations, les techniciens interviennent derrière un mur de plomb. Malgré le danger, tous les hommes ne sont pas équipés d'une tenue de protection complète, loin s'en faut. Ignorance des risques ou inconscience du danger.
Quant à l'immense nuage de sable et de poussière chargé de particules hautement radioactives, les autorités se veulent rassurantes. En réalité, le nuage se disperse sur une zone bien plus large que prévu. Une bonne partie de l'Afrique, de la Libye à la Côte d'Ivoire, en passant par le Burkina Faso, est arrosée par les retombées radioactives. Même l'Espagne et la Sicile sont touchées.
Même les lointains voisins...
L'État, pour pouvoir continuer tranquillement, a sciemment menti sur la dangerosité des essais nucléaires. Et n'a pas pris des précautions qui auraient pu alerter sur le danger.
Dès la première bombe A, Bernard Ista fut donc renvoyé sur le point zéro, et il est loin d'avoir été le seul.
Avec une protection minimale ou aucune.
Un rapport du ministère de la Défense raconte en détail comment, à l'occasion de Gerboise Verte, quatrième bombe A française, un escadron de chars AMX, un escadron de reconnaissance et une compagnie d'infanterie ont été envoyés en manœuvre en zone nucléaire. Au total, plus de 50 hommes volontairement exposés. Objectif ? Étudier les effets physiologiques et psychologiques produits sur l'homme par l'arme atomique afin d'obtenir les éléments nécessaires à la préparation physique et à la formation morale du combattant moderne.
Le premier essai nucléaire français, encensé par le général de Gaulle, est largement condamné par la communauté internationale. L'ONU dénonce le tir, le Maroc, pays limitrophe, proteste.
Qui n'est plus protectorat français depuis 1956, donc tout récemment.
Nous avons retrouvé deux survivants de cette opération. Ils ne s'étaient pas revus depuis 50 ans.
J'avais 23 ans, c'était en janvier 61.
20 ans, 19 ans et demi.
On s'est retrouvés à 25 soldats pour partir quelque part.
Aucun détail. C'était secret, c'est ce qu'on nous a dit.
Il faisait partie d'une compagnie de chars Patton, envoyée d'Allemagne en Algérie pour une mission secrète dont il découvre l'objet une fois sur place.
C'est à Colombéchard qu'on nous a dit que l'on partait vers Reagan.
Et dans leur livret militaire, aucune trace de leur participation à ces manœuvres. Algérie Sud, une indication suffisamment vague pour que ces deux appelés du contingent ne puissent pas prouver aujourd'hui qu'ils ont été présents sur la base atomique. Leurs témoignages, cependant, sont explicites.
On s'est placé à 1500 mètres du point zéro. Et dans le Sahara, je peux vous assurer que 1500 mètres, c'est pas très loin. Je me disais, mais vraiment, ça va chauffer. Le char Patton fait 45 tonnes, donc je pense qu'on va pas s'envoler, on va rester sur place. Et vous voyez toutes les questions que l'on peut se poser à ce moment-là. Mes yeux étaient fermés, j'avais la tête dans mes genoux, j'étais dans le char, et donc la lumière passait que par l'écoutille. Et malgré cela, je voyais la lumière. Les yeux fermés.
Et après, l'onde de choc arrive, c'est-à-dire que le char a bougé 44 tonnes et ça bougeait beaucoup. Je suis sûr qu'il a fait un bond de l'avant à l'arrière, au moins 30 à 40 cm.
Pendant quelques minutes, ça a été vraiment... Le cœur battait très fort. Hein.
Bon, on a peur. On ne peut pas expliquer parce qu'on sait pas, c'est presque la fin du monde.
On a eu la consigne de passer au point zéro.
On nous a dit, bon, maintenant, on délimite les zones radioactives. On était commandé par notre chef de groupe et puis par hélicoptère. Avec le compteur GGR que chaque char avait, on mesure la radioactivité. Le chef de char communiquait ça à la centrale et puis après, il l'utilisait. Il nous disait, bon, stop, faites demi-tour, allez à droite, allez à gauche. Alors, ça faisait comme une étoile.
Et on est resté dans le char au moins pendant 2 heures, à circuler à gauche et à droite. Il y en a plusieurs qui ont été malades.
Moi, j'ai chié dedans. Je nageais, j'avais au moins 10 cm de jus, moi, dans les godasses, dans les bottes.
Dès leur retour à la base, ils sont envoyés en décontamination.
Il y avait un contrôle avec l'appareil GGR, et dès que l'appareil réagissait, donc il fallait repasser à la douche. Moi, je suis passé 2 fois, mais d'autres sont passés 5 fois, 6 fois.
Bah, s'il avait voulu essayer que le matériel, il aurait pris les chars, il les aurait mis sur place, puis nous, il n'y avait plus personne. Mais là, ils nous ont laissés dans les chars. C'est donc c'était volontaire. Ils ont bien voulu savoir ce que ça allait faire sur les humains.
Pierre Messmer, ministre de la Défense de l'époque.
De janvier 60 à juin 69, donc gaulliste du premier cercle et futur ministre des Outre-mer, puis premier ministre, mort en 2007.
A toujours nié avoir volontairement exposé des hommes au feu nucléaire.
Est-ce que le but de certains de ces essais, c'était aussi de tester un peu la résistance de l'homme ?
Oh, bien sûr que non, ce serait criminel. Ce serait criminel de faire cela. Et nous n'étions pas des criminels.
C'est le déni. Alors qu'après le déni, il y a eu l'apparition des mensonges. Bon, les mensonges, vous savez, comme dit l'autre, ça va, ça vient. C'est le déni. Et c'est le truc qui fait le plus souffrir. C'est de nier l'évidence.
La bombe, chanson par et de Stéphane Vareg et Francis Lemarque, sorti en 66.
Un doigt de poudre dans un dé à coudre, et voilà la foudre qui naît. Va te faire absoudre, va te faire dissoudre, va te faire recoudre le portrait. Est-ce que le soleil n'est pas assez brûlant comme ça? Ah, alors pourquoi en avoir fait un autre qui d'un coup brûlera? Ton père, ta mère, tes frères et toi et moi, et tous les amoureux seront changé en cendre bleue grâce à Dieu. Et mon Dieu, crois-tu qu'avec une simple guitare et des poèmes tu empêcheras qu'un jour éclate ce pétard? Tout nuit, tout noir, tout cri et tout cauchemar, ce sera le grand spectacle sang et lumière pour tes beaux yeux grâce à Dieu. Un doigt d'eau lourde au fond d'une gourde, et voilà la foudre qui naît. Va te faire assoudre, va te faire dissoudre, va te faire recoudre le portrait. Ça fera un de ces 14 juillet, papa, et jamais plus au bas des rues tu n'en reverras des comme ça. Car des juillet, des rues y en aura plus, tu feras danser ta femme. Va te gâcher la vie à te faire du souci. Un bon matin, même si tu es malade, tu te trouveras guéri. L'amour, truqué, la guerre et les affaires. Ta peau et tes impôts, t'en auras plus. Quel drôle de peau, mon petit bien, grâce à Dieu.
la coudre, et voilà la foudre qui naît. Va te faire absoudre, va te faire dissoudre, va te faire recoudre le portrait. Wow.
À l'époque, la propagande martelait deux mots. Sécurité, innocuité. Objectif, rassurer. Témoin, ce film de présentation de la base atomique française d'Inemgel où ont lieu, à partir de 1962, les essais nucléaires militaires souterrains. Une sorte de club méditerranéen atomique, dont Bernard Hista loue dans ses mémoires le confort des installations, ces baraquements que l'on voit à l'image. Il y dormait.
À la base vie, située à Inemgel, nous étions très bien logés dans des shelters climatisés et très confortables. Un barman mettait de l'ambiance avec sa chanson préférée, « Le lion est mort ce soir ».
Lui qui filma la paye des pélos ne nous parle pas du bidonville où il vivait. Celui-ci jouxtait la base. Bernard Hista était présent pour participer au premier tir souterrain, Béryl, le 1er mai 1962. Désormais, les essais nucléaires ont lieu au bout de cette route, dans ce massif de granit rose, le Tanafella, où des appelés et des pélos travaillaient à main nue. Lucien Parfait faisait partie des équipes de mineurs.
En short, en chemise, attends. Et chapeau de brousse, quoi, bien sûr. Pour le soleil, parce qu'il faisait très chaud là-bas. Hein.
La bombe nucléaire est logée dans un gigantesque tunnel de plus d'un kilomètre, censé contenir l'explosion et ses émanations radioactives. Mais ce jour-là, rien ne se passe comme prévu. Au moment de la détonation, la montagne se fissure, puis s'éventre. Une gigantesque flamme jaillit du tunnel, suivie d'un nuage de poussière radioactive qui se répand dans l'atmosphère.
Oh, ça débouche, hein. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est la galerie qui débouche, hein.
Après avoir enregistré l'accident nucléaire en direct, Bernard Hista et ses collègues observent un instant pétrifiés le nuage noir qui leur fonce dessus. Que faire ?
J'entends encore les portes qui claquent, qui est poum, poum, poum. La montagne s'ouvre et le nuage se rabat sur nous parce qu'il y avait le vent qui était sur nous. Là, deux coups de sirène, une panique indescriptible, je ne peux pas vous définir ça.
Les ministres de l'armée et de la recherche scientifique présents sur place sont évacués à la hâte.
Une panique totale.
Chacun monte dans le véhicule à sa disposition, masque à gaz sur le nez. Nous longeons le nuage radioactif qui vient de la montagne. Nous suivons, avec beaucoup d'appréhension, les évolutions des volutes de gaz gris.
Le nuage, il était là.
À notre arrivée à la base, immédiatement, l'équipe médicale nous contrôle au compteur GGR. Douche obligatoire pour la Jeep et pour toute l'équipe.
Et c'est tout. En 65, Barry McGuire sort son tube Eve of Destruction.
Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
Mardi 1er mai 62. Beaucoup de gars sont à l'infirmerie pour passer à la décontamination. Les gars affluent à l'infirmerie de plus en plus nombreux. Certains sont, paraît-il, gravement atteints et ils sont gardés à l'infirmerie. Tout se contrôle en run-gun ou en milli-run-gun. Chaque gars était muni d'un dosimètre photographique Kodak.
La contamination s'étend vers l'est, sur plus de 150 km. Au journal télévisé, l'accident est passé sous silence.
La santé des agents du commissariat à l'énergie atomique employés sur le site des expériences est l'objet d'une surveillance constante. Cet appareil permet de mesurer la radioactivité du corps humain et de différencier les produits de fission qui auraient pu s'y fixer. Un magnétophone diffuse une musique douce. Un quart d'heure plus tard, après cette cure de relaxation forcée mais utile, l'agent, rassuré et confiant, reprend son travail quotidien.
L'accident du 1er mai 1962 est le plus grave survenu dans le Sahara. Environ 100 personnes assistant à l'essai ont été contaminées, dont le ministre des Armées Pierre Messmer. Suite aux accords d'Évian signés en mars 1962, le pays est devenu indépendant. Une clause secrète de ces accords octroyait à la France le droit de procéder à des essais sur le territoire algérien pendant 5 ans. À présent, il est temps pour la France de quitter l'Algérie. Prochaine destination, les tropiques.
Nous voici presque rendus à l'issue de notre pénultième visite du Panthéon décousu, rediffusion dans la semaine et podcast à retrouver très bientôt sur Radio Alpa, mais nous ne quittons pas sans musique et sans un incontournable de la cause. Ce 25 mai 2011, Rammstein est en live à Paris. Bonne semaine à toutes et tous et d'ici là, ne vous exposez pas trop aux mauvaises ondes. Restez plutôt à l'écoute de Radio Alpa.
Il n'y a pas de mots pour qualifier ce comportement. Pour moi, c'est dégueulasse. Et ces gens-là, on devrait les montrer du doigt aujourd'hui pour dire « Toi, toi, tu as mis des êtres humains dans une situation à risque. Tu t'es pas occupé de ces gens-là. Tu les as considérés encore pire que des rats ou des souris. » Parce qu'un rat et souris, après des essais, on les suit hein, pour savoir ce qui se passe. Nous, on nous a même pas suivis. »